RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, la revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter d'abord des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le journal. Commençons avec les titres. Le chef d'état-major de la marine, Sivi Sukma Aji, donne la priorité à la sécurité maritime. La prison sous port maximum est entrée dans la dernière étape du développement. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a rencontré son homologue australien pour discuter de la coopération contre le terrorisme. L'Indonésie observe le marché de l'Iran pour exporter des produits automobiles et textiles. Indonésie-Argentine encourage la coopération économique. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a inauguré un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'État au palais présidentiel à Jakarta. L'un d'entre eux est l'amiral Sivi Sukma Aji, qui est prêté serment en tant que chef d'état-major de la marine, remplaçant l'amiral Ade Supandi, qui prendra sa retraite le 1er juin 2018. Après avoir été inauguré, l'amiral Sivi Sukma Aji a déclaré qu'il était déterminé à poursuivre le programme qui avait été conçu par le chef d'état-major de la marine précédent. Il a souligné le secteur de la sécurité maritime qui serait une priorité en particulier pour soutenir la vision de l'axe maritime mondial. Pour nous, les habitants, en particulier la force maritime, l'axe maritime sécurise la ligne de distribution maritime elle-même, sécurise les utilisateurs de la marine. Ensuite, on crée la situation de sécurité, que tout ce qui est dans l'océan, la distribution de la sécurité, de la navigation, je pense que c'est une tâche navale très importante à venir. Avant de servir comme chef d'état-major de la marine, Sivi Sukma Aji avait occupé divers postes stratégiques, notamment celui d'adjoint à la planification générale du commandant de l'armée nationale d'Indonésie et de commandant du commandement de la flotte de la République indonésienne de l'Ouest. En outre, Sivi Sukma a également servi comme commandant général de l'Académie de l'Armée nationale d'Indonésie. Le président Joko Widodo a déclaré que le gouvernement prépare une prison de haute sécurité pour les prisonniers terroristes. C'est ce qu'a affirmé le chef d'État après avoir assisté à un iftar avec un certain nombre de jeunes dans le bureau du Conseil des représentants régional en du Parti Golkar mercredi à Jakarta. Le président a déclaré que le processus de construction de la prison est déjà en cours et est entré dans la phase finale d'achèvement. Il est prévu que le centre de détention et une capacité de plus de 500 chambres pour les détenus de prisonniers terroristes.
Sudah ada, nanti 3 bulan, 4 maximum, 4 bulan lagi selesai.
Il y en a dans 3 à 4 mois, c'est fini. Super maximum, mais à Nusa Kambangan. On l'a construit depuis longtemps, dans l'étape de finalisation, avec la capacité de plus de 500 chambres. Quand on parle de la proposition du général Tito Karnavian, chef de la police d'Indonésie, sur la prison spéciale pour des prisonniers terroristes à Bogor, Java West, le président a déclaré que le gouvernement était encore en train de discuter du plan de développement de cette prison. Selon lui, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décision finale sur la proposition de développer cette prison qui deviendra en substitut à la détention de Makobrimob à Depok, Java West. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue australien, Julie Bishop, en mars de la réunion des ministres des pays du G20 à Buenos Aires, en Argentine. Cela a été indiqué dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères reçu par Antara à Jakarta mardi. Au cours de la réunion, la ministre indonésienne des Affaires étrangères et son homologue australien ont convenu de l'importance des deux pays de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. En outre, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de divers efforts pour améliorer la coopération bilatérale, y compris les efforts pour achever les négociations de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie ou CEPA cette année. À cette occasion, la ministre Retno a également affirmé l'engagement du gouvernement de l'Indonésie de continuer à contribuer à l'effort de réaliser la paix mondiale. L'ambassadeur indonésien en République islamique d'Iran, Octaviano Alimuddin, a déclaré que la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Iran augmentait considérablement dans le domaine politique et économique. À la voix de l'Indonésie de RRI, il a récemment déclaré « Après la visite du président Joko Widodo en Iran, il y avait l'augmentation du volume commercial de plus de 50%. » En 2016, l'Indonésie et l'Iran ont un volume commercial de 338 millions de dollars américains. L'augmentation des exportations indonésiennes vers l'Iran est notamment l'huile de palme brute, CPO et des produits alimentaires en Iran. À l'avenir, elle espère que les produits automobiles et textiles indonésiens pourront entrer sur le marché iranien.
We want also to further pursue the markets of.
Nous voulons également poursuivre le marché de l'Iran pour notre industrie textile et automobile. C'est pourquoi l'Indonésie s'efforce à achever l'accord commercial préférentiel que nous avons sérieusement négocié en 2017. Nous avons deux négociations et en 2018, nous aurons une autre négociation avant de pouvoir finaliser l'accord commercial préférentiel PTA. Octaviano a ajouté, dans le domaine de l'investissement, sur la base des données du Conseil de coordination des investissements, l'Iran est le 33e pays qui a investi aux 17 projets en Indonésie en 2017. Il espère qu'en 2018, l'investissement iranien pourrait augmenter. Actuellement, il y a un projet conjoint Indonésie-Iran en cours à Palu et Situbondo. Dans le domaine politique, l'Iran soutient la candidature de l'Indonésie au Conseil de sécurité non permanent de l'ONU en 2019. En outre, l'Indonésie et l'Iran mènent fréquemment des consultations entre le gouvernement et la visite des hauts fonctionnaires. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le ministre argentin des Affaires étrangères, George Fauri, pour discuter de l'intensification de la coopération bilatérale, en particulier la coopération économique et socio-culturelle entre les deux pays. La réunion bilatérale s'est tenue au Palacio San Martín à Buenos Aires, en Argentine, le 22 mai 2018. Et a mis fin à une série de visites de travail du ministre des Affaires étrangères en Argentine. Lors de la réunion, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré que L'Argentine était le deuxième partenaire commercial de l'Indonésie en Amérique du Sud, avec une valeur d'1,42 milliard de dollars américains en 2017. Retno Marsudi a souligné que la valeur ne reflétait pas encore le potentiel des relations commerciales entre les deux pays, qui est très ouverte. À cette fin, le gouvernement d'Indonésie encourage l'Argentine à réduire et éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires aux produits indonésiens sur le marché argentin. C'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, après le journal, maintenant, nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Le terrorisme pourrait-il être éliminé ?» En Indonésie, il y a eu des actes terroristes plusieurs fois qui ne touchent pas seulement les auteurs, mais aussi la vie des gens autour de l'incident. L'incident par l'incident a rendu la communauté furieuse. L'action meurtrière continue de se produire, qui peut causer des conflits interreligieux si nous ne pensons pas clairement pour résoudre les différents terreurs autour de nous. Enfin, un attentat suicide perpétré par une famille de 6 personnes à Surabaya et Sidoarjo le 13 mai 2018, dont la cible d'opération est 3 églises. Il est triste de voir des mineurs sont impliqués dans l'attentat suicide. Lors d'une réunion limitée sur la prévention du terrorisme et les contre-mesures de terrorisme le 22 mai 2018 à Jakarta, le président Joko Widodo a insisté que l'éradication du terrorisme ne suffisait pas aux forces de l'ordre et de démanteler le réseau terroriste. L'éradication du terrorisme doit être équilibrée avec l'approchement de la puissance douce. Selon le président, le de radicalisation absolue est optimisé, non seulement pour les ex-terroristes, mais aussi pour nettoyer les institutions éducatives à tous les niveaux et la chair générale de l'hérésie du terrorisme. Consciemment ou non, les terroristes sont partout. De nombreux terroristes présumés ont été arrêtés. Cependant, est-il possible qu'une action en justice contre les terroristes puisse les tuer jusqu'à la racine? Bien que de nombreux terroristes aient été capturés et condamnés, leurs actions sont toujours répétées avec de nouveaux délinquants. Donc, en fait, que faudrait-il faire pour que le terrorisme n'existe plus vraiment dans ce pays? Il est terrible de savoir que le radicalisme est entré dans le monde éducatif depuis son plus jeune âge jusqu'à l'université. Les résultats de l'enquête de l'IPI en 2016, 25% des étudiants et 21% des enseignants ont déclaré que Pancasila, qui est connu comme l'idéologie de la nation indonésienne, qui est plus réelle, n'est plus pertinent. Un sondage de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme en 2017 montre également que 39% étudiants de 15 provinces indonésiennes sont intéressés à la compréhension radicale. Dwiatina Palubuhu, recteur de l'Université Hasanuddin de Makassar, a déclaré lors d'une réunion limitée avec le président que la déradicalisation pouvait être réalisée en invitant les étudiants à être fiers comme nation indonésienne pacifique et tolérante. Ils devraient être fiers d'avoir Pancasila avec les valeurs de l'humanisme contenues dedans. Dans ce forum, le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, Suhardi Alius, a proposé de restaurer le nationalisme à travers le programme d'études. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, oblige à tous les enseignants d'enseigner le vrai renforcement de l'éducation du caractère, pas seulement la théorie. Ce qui est important, la société doit toujours être vigilante pour ne pas être accroché et influencé par des enseignants trompeurs et déraisonnables. Fortifiez-vous avec une vraie idéologie religieuse, une religion de paix. Serviteur, c'est le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 24 mai. Nous commençons par un événement qui a eu lieu le 24 mai 1989. La Coupe Sudirman a d'abord eu lieu à Jakarta. La Coupe Sudirman est un championnat international de badminton pour les numéros d'équipe mixte qui rivalise les numéros des singles masculins, des singles féminins, des doubles masculins, des doubles féminins et des doubles mixtes. Ce championnat a lieu tous les deux ans. Le nom Sudirman est pris du nom du joueur de badminton indonésien, le regretté Dick Sudirman. Il est l'un des fondateurs de l'Association de badminton d'Indonésie et est également connu comme le père de badminton de l'Indonésie. Ce championnat a été initié par l'Indonésie en 1986. La Coupe de Sudirman s'est déroulée pour la première fois à Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, du 24 mai au 29 mai 1989. Au championnat, l'Indonésie a réussi à s'imposer en battant la Corée du Sud avec un score 3-2. Ensuite, nous nous sommes tournés au 24 mai 1993, le jour de l'indépendance de l'Érythrée. L'Érythrée est un pays situé dans la partie nord-est de l'Afrique. L'Érythrée est bordée par le Soudan à l'ouest, l'Éthiopie au sud et Djibouti au sud-est. La mer Rouge à l'est de l'Érythrée séparait les pays des régions du Moyen-Orient. Cette région était autrefois une colonie italienne. Le territoire de l'Érythrée s'est séparé de l'Éthiopie. Il a gagné son indépendance le 24 mai 1993 après une guerre pendant 30 ans, de 1961 à 1991. Les auditeurs, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui cette fois par un événement qui s'est déroulé le 24 mai 2000. Israël s'est retiré le Liban du Sud. Après avoir occupé le Liban du Sud pendant 22 ans, précisément le 24 mai 2000, l'armée israélienne s'est finalement retirée de cette région. En 1978, les troupes israéliennes ont attaqué le Liban pour la quatrième fois. Plus tôt, Israël a établi une ligne de sécurité dans la région du Liban du Sud et a formé un groupe semi-militaire. Le groupe était composé de mercenaires libanais. Le groupe chiite de Hezbollah font alors campagne contre eux jusqu'à la capitulation des groupes pro-israéliens. Israël s'est retiré du Liban le 24 mai 2000. C'était l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service mondial depuis Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée La forêt indigène de Tabanan à Bali conserve la faune. La forêt indigène en tant qu'espace de valeur important pour le peuple autochtone peut jouer le rôle comme la source économique de la société et aussi peut jouer le rôle comme le lieu ou l'habitat de la préservation faunique de l'extension. Concernant cette question, le ministère de l'Environnement et des Forêts, par l'Institut de conservation des ressources naturelles, à Bali, avec la Fondation des Amoureux du Parc National, on fait la réintroduction de la faune dans la forêt indigène de Pura Besi Kalung et Pura Petali, le district Penebel, la régence de Tabanan, Bali, samedi. Dadang, le chef de la conservation des ressources naturelles de BKSDA Bali, a déclaré que les espaces ont été libérés, à savoir 7 hérissons, un pangolin, un aigle paria, un python batik et certains types de serpents. Tous les animaux sont le résultat de la confiscation et soumis par la communauté, qui ont subi la réhabilitation et habituation au centre de sauvetage des animaux à Bali et sauvetage des reptiles de Bali. La libération des animaux est l'un des efforts de conservation pour prévenir l'extinction. En plus de la pertinence de l'habitat, l'engagement de la communauté pour préserver les animaux devient la considération de la sélection de Pura Besi Kalung et Pura Petali comme lieu de libération. Le Centre de sauvetage des animaux Bali et sauvetage des reptiles de Bali sont l'agence sous la direction de la Fondation des Amoureux du Parc National. L'activité de la libération a été participée entre autres par le représentant du commandant du district militaire, l'académicien de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université Udayana et la communauté du village de Babahan, le district de Penebel. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici Magazine Culturel intitulé Les sources de Sotuti Adagai à Alor Nusa Tenggara Est. La régence Alor, qui est située à Nusa Tenggara Est, est des ressources naturelles abondantes, ce qui est capable de fournir un paysage intéressant pour les visiteurs. L'un d'entre eux est la beauté de la source de saute de Tuti Adagai, située à l'est de l'île Alor, qui vaut vraiment la peine d'être une destination touristique. L'emplacement de cette source thermale est à environ 50 km de la ville Kalabahi, la capitale de la régence Alor, district Alor Nord-Est, en province de Nusa Tenggara Est. L'emplacement de cette source d'eau chaude est très facile à atteindre en raison des excellentes conditions routières. Le voyage de la ville Kalabahi à cette source d'eau chaude prend environ une heure. Avant d'entrer dans l'emplacement, les visiteurs peuvent profiter de la vue sur la forêt de noix et les arbres ombragés, ce qui est approprié pour un lieu de détente avec la famille. Différent de la source d'eau chaude en général, ici il y a deux sources d'eau chaude qui ne sont pas éloignées et au milieu de l'écoulement de la rivière. La première source d'eau chaude et sous forme de sortant du fond de la terre avec un son distinctif comme le son d'un gros moteur qui semble accueillir les visiteurs et prêt à vous accompagner. Mais n'essayez pas de tousser, encore moins de vous baigner ici parce que les eaux sont très chaudes. La deuxième source d'eau chaude se trouve à environ 50 mètres du premier point de source d'eau chaude. Ici, les eaux chaudes à gélier de la pile de la minuscule dépôt rocheux durci à plus d'un mètre autour du trou, d'une très belle couleur orange. À cette deuxième source d'eau chaude, les eaux peuvent être utilisées par les visiteurs pour se baigner et éliminer la fatigue après un voyage. En outre, les visiteurs peuvent également profiter de la belle circulation des eaux chaudes de la rivière Tuti Adagai qui coule lentement vers l'estuaire avec des boules toujours émises et la chaleur de la mousse et de la vapeur. La chaleur sera plus prononcée lorsque nous serons au bord de la rivière parce que cette source d'eau chaude contient du soufre. Les gens croient que la baignade dans cette rivière peut guérir les maladies de la peau. En plus de points d'éclatement, il y a aussi des points d'aspersion du fond de l'eau comme une petite source d'eau qui émet toujours des eaux chaudes. Les petits animaux ne peuvent pas survivre lorsqu'ils approchent du débit des eaux. La source d'eau chaude Tuti Adagai possède un phénomène unique sous la forme d'éclats d'eau chaude et de pierres de cristal, ce qui en fait une attraction particulière pour ceux qui s'ennuient dans l'atmosphère urbaine. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Bonsoir chers amis, La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Malangue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Malangue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province de Java-Ouest afin de connaître plus loin la langue sundanaise. En sundanais, il existe un niveau d'expression d'une langue appelée Undak Usuk Bahasa Sunda. Dans Undak Usuk Bahasa Sunda, le locuteur utilise un langage adapté à l'âge, un statut social et à la position de l'autre personne, ainsi qu'à la situation de la conversation. Les ajustements linguistiques visent à montrer la décence. En général, il existe trois types de niveaux de langue dans Undak Usuk Bahasa Sunda, à savoir bahasa halus, soit la langue fine, bahasa loma, soit la langue loma, et bahasa kasar, soit la langue rugueuse. La langue fine est utilisée dans une atmosphère officielle et lorsque vous parlez avec une personne âgée ou occupe une position élevée. et ensuite la langue loma est utilisée dans les conversations quotidiennes avec la personne égale. Cependant, la langue religieuse, qui est jugée impolie, est généralement utilisée en cas de colère. L'utilisation de Undang Usuk Bahasa Sunda est différente aux diverses régions japonaises. Certaines ont tendance à utiliser la langue fine, tandis que d'autres utilisent la langue loma. Comme affirmé Dr. Sutejo, directeur du bureau de la langue de la province de Japonaise. Oui, c'est un peu différent. Nous appelons ce groupe Priangan. Il y a d'autres groupes de Sundani. Priangan est un peu plus subtil. Priangan consiste en Bandung, Cianjur, Garut, Tasik, Sunda, appelé Sunda en dehors de Priangan. Il y a Bogor, Banten, c'est un peu différent, plus haute. Aucun problème de communication. Les gens de Banten communiquent avec les gens de Bandung en utilisant le sundani. Se comprennent, signifiant que la langue est toujours la même, mais toujours considérée comme un dialecte. Sundani dialecte Banten et sundani dialecte Bandung ou Priangan. Juste une subtilité qui est quelque peu différente, dont le niveau de parole à Priangan est plus ordonné, plus soigné et plus raffiné. Chers amis, c'est un nombre d'exemples de mots en langue sundanaise basés sur Undang Usuk Bahasa Sunda. Saya, saya, en français, je, en langue fine, simkuring. En langue loma, abdi. En langue rut, aing ou urang. Kamu, kamu, en français, tu. En langue fine, anjen. En langue loma, mane. Makan, makan, en français, manger. En langue rut, sia. En langue fine, tuang. En langue loma, dahar. En langue rut, nyatu. Chers amis, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux, Facebook The Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia et Twitter @voiindonesia. Chers amis, c'était le programme Ma Langue comme média de préserver la diversité des langues locales dans ce pays. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs de la Voix d'Indonésie, le service mondial de RRI, on se retrouve dans le magazine musical. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons diverses chansons religieuses indonésiennes de Krisho et Haddad Alwi. Pour ouvrir notre rencontre, écoutez la première chanson intitulée « Ketika kaki dan tangan berkata » de Krisho. Bonne écoute.
akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba.
Serviteur, la chanson intitulée Ketika Kaki dan Tangan Berkata a été composée par un écrivain indonésien, Taufik Ismail, nous a rappelé à tous que dans l'au-delà, les hommes doivent être responsables de tous les actes de charité. La chanson Ketika Kaki dan Tangan Berkata se termine également par un appel à Dieu pour rester en permanence sur le bon chemin de vie. La chanson suivante, intitulée « Damai Bersamamu » par Krisha. La chanson « Damai Bersamamu » a été libérée en 1996. Cette chanson raconte l'expression de gratitude de l'homme à Dieu Tout-Puissant. Bon, serviteur, voici la chanson de Krisha intitulée « Damai Bersamamu ». Bonne écoute. Thank you.
penuh di bawah mentari. Di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu.
Cerita mendeku telah sang song de Krisho ang titulé Damai Bersamamu. Le chanteur religieux suivant que nous vous présenterons est Hadad Alwi, qui est né à Surakarta le 13 mars 1966. Hadad Alwi a l'album religieux le plus vendu dans l'histoire de la musique indonésienne. Il a commencé sa carrière musicale de souci de l'absence de chansons religieuses des enfants. Donc, pas étonnant si Haddad Alwi a sorti une variété de chansons religieuses pour les enfants et il a fait souvent la performance avec quelques petits artistes. La carrière de Haddad Alwi a commencé en 1997 avec deux albums Salawat, Nur Muhammad et Ziarah Rasul. Puis de 1999 à 2004, il a collaboré avec Sulis pour produire un album intitulé Cinta Rasul, du premier au sixième volume. L'album intitulé Cinta Rasul est également considéré comme l'album religieux le plus vendu en Indonésie. Bon, chers auditeurs, avant de finir notre programme musical, écoutons d'abord les dernières chansons intitulées Marhaban Ya Ramadan et Ya Habibi. Bonne écoute et à demain.
Marhaban ya shara Ramadan ya Rosia.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9.5 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.